journal de 7h. Sonia Nzian.
Bonjour à toutes et à tous. Opération de déguerpissement dans le district autonome d'Abidjan. Les habitants des zones concernées peuvent avoir recours à un juge, preuve à l'appui pour éventuellement une suspension des démolitions. C'est ce qu'affirme en début de journal Dr Landry Amoussou, professeur de droit. Vous le retrouverez comme invité de la rédaction sur le même sujet, mais dans les détails. Ce sera en fin d'édition avec Francis Cassis. La mesure de suspension temporaire d'exportation de certains produits vivriers levée par le gouvernement ivoirien jeudi dernier réjouit les opérateurs économiques. Exportateurs de dérivés du manioc, Bachek se prononcera là-dessus et nous dira comment son entreprise s'est organisée durant cette période. En Guinée, le chef de la junte Mamadi Doumbouya a nommé hier mardi un premier ministre. Et puis de retour en Côte d'Ivoire pour la revue des titres, nous irons parcourir la une des journaux parus ce jour et ce sera avec Ghislain Koulibaly. Bienvenue dans ce journal qui démarre avec l'actuelle opération de déguerpissement dans le district autonome d'Abidjan avec une mise en demeure sans délai depuis le 25 janvier aux habitants des zones concernées. Pour Dr Landry Amoussou, seul un recours devant le juge administratif avec certaines preuves pourrait conduire à une suspension des démolitions. Professeur de droit à l'université Alassane Ouattara de Boaké, il nous en dit plus.
La mise à demeure, elle peut être interprétée comme une relance. Je pense qu'ils avaient déjà été avertis. Et là, c'est une autre relance, mais cette fois-ci qui ne donne plus de délai, parce que les autres délais ont été suffisamment épuisés depuis quelques années. C'est un acte administratif unilatéral, il est susceptible de recours, mais il faudra montrer au juge que l'acte est entaché d'illégalité. Et deuxième élément, il faut montrer l'urgence de ce que le juge se prononce rapidement, parce que les conséquences risquent d'être désastreuses. Voilà. Donc, cette mesure d'urgence, le référé suspension, existe dans notre droit. Le souci, c'est qu'ils ont en face une administration qui semble avoir pris toutes les mesures nécessaires pour entamer cette démarche. Mais il revient aux administrés, en tout cas aux destinataires, de prouver au juge que l'administration s'apprête à commettre une illégalité flagrante.
Alors, quand vous parlez d'illégalité, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire, ils sont sur leur propriété, ils ne sont pas sur le domaine de l'État. Ils ont tous les documents afférents à leur propriété. Ils n'ont pas été dédommagés et on leur demande, voilà, tous ces éléments peuvent permettre au juge, le juge administratif, de effectivement suspendre les démolitions.
Docteur Landry Amoussou, professeur de droit à l'université Alassane Ouattara de Boaké, joint par Francis Cassis. Et puis, toujours concernant cette opération de déguerpissement, le secrétaire général de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, a rencontré lundi le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan. Pour l'occasion, Siékambou a abordé avec Cissé Bakongo la situation des élèves du groupe scolaire Cha Hélène de Yopougon-Chesco, école démolie au cours de l'opération de déguerpissement. Là-dessus, écoutons Siékambou, secrétaire général de la FESI.
Depuis cette question de démolition de l'école Cha-Hélène, au niveau de GESCO, on a envoyé des demandes d'audience à certaines autorités telles que le ministre, le gouverneur, Bakongo. Tout ce que nous savons, l'école a été cassée par qui? Par le district, non? Celui qui gère le district, c'est le ministre, le gouverneur. Il fallait aller là-bas comprendre quelles sont les différentes démarches qui ont été entreprises pour que les élèves qui étaient dans cette école-là puissent continuer allègrement leur année académique sans embâche. Il y a eu des solutions qui ont été proposées à M. le ministre-gouverneur, des solutions qui ont été validées. Malheureusement, quand il a contacté Mme le ministre de l'Éducation nationale devant nous, elle a dit qu'elle avait déjà trouvé des solutions et que ce problème était déjà derrière nous. On a été sur le terrain, on a remarqué que les solutions dont elle parlait, non seulement ces solutions, ne venaient pas d'elle parce que son ministère a intimé l'ordre au fondateur de trouver des solutions, sinon l'école sera fermée pour de bon. Mais les solutions que le fondateur propose ne sont pas des solutions qui garantissent la qualité de formation pour nos camarades. Et que cette situation qui se passe au niveau de Cha Hélène, il faut être solidaire jusqu'à ce que des solutions concrètes soient trouvées. Et tant que les élèves de Cha Hélène ne trouveront pas le chemin de l'école, soyez-en rassurés, nous serons dans la boue et très déterminés pour que des solutions soient trouvées parce que l'avenir appartient à la jeunesse.
Sié Kambou, secrétaire général de la FESI à l'instant, avec Jean-Mélène Bitti. Parlons à présent de la grâce présidentielle accordée récemment par le chef de l'État Alassane Ouattara à 51 prisonniers civils et militaires. La Ligue ivoirienne des droits de l'homme, Lido, ne cache pas sa déception pour les familles de victimes dont elle assure la défense. Les raisons avec son président Net Willy Alexandre.
Ben écoutez, pour nous qui avons soutenu et continuons de soutenir les victimes de la crise post-électorale, notamment celle de 2010-2011, cette décision de grâce présidentielle-là est une véritable déception. Pour nous, en tout cas, un revers qui met fin à tout espoir de justice pour ces victimes que nous avons soutenues jusqu'ici. Nous avions déjà exprimé nos inquiétudes quant à ce genre de décision-là dans un rapport que nous avons publié en juillet 2022, suite à l'amnistie de 2018, et qui soulignait déjà qu'elle risquait de favoriser la récidive. Et puis le titre de ce rapport-là même évocateur, parce qu'il disait « Côte d'Ivoire, de la justice sacrifiée au nom de la réconciliation à la justice instrumentalisée par le politique ». Donc ce titre-là exprimait clairement déjà nos craintes. Avec cette décision, je ne pense pas qu'au niveau national, les victimes que nous représentons puissent avoir d'autres voies de recours.
À peu près combien de victimes est-ce que vous représentiez justement ?
Dans les procédures, on représente autour de 250 victimes, aussi bien proches de l'ancien parti au pouvoir que du nouveau parti au pouvoir. Mmh. On peut ajouter, c'est que nous, on reste fortement convaincus que seule la justice peut véritablement favoriser la réconciliation, une réconciliation durable en tout cas. Parce qu'il y a déjà eu de l'amnistie, il y a déjà eu des grâces présidentielles, mais ça n'a pas empêché la commission des crimes de 2010 et de celle de 2020.
Le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, Net Willy Alexandre, interrogé par Mata Touré. Après plus d'un mois, le gouvernement ivoirien a décidé le jeudi 22 février dernier de lever la mesure de suspension temporaire de l'exportation de certains produits vivriers. Avant de se réjouir de la décision, Bachek explique entre autres comment son entreprise s'est réinventée pour faire face à la situation. Précisons qu'il est gestionnaire d'une entreprise de production et d'exportation des dérivés du manioc, notamment l'attiéké, vers l'Europe.
C'était une période qui était assez difficile parce que notre unité, elle est dimensionnée pour l'exportation. Plus on fait du volume, plus ça nous arrange. Malheureusement, la mesure est tombée à une mauvaise période parce que tous nos clients sont à l'export et finalement, on a été obligé de se recentrer sur le marché intérieur avec tout ce que ça nécessite comme dispositif pour pouvoir aller démarcher des restaurants, des cantines et puis des particuliers. Et puis comme la mesure était prise sur 6 mois, en tout cas, il fallait faire des efforts pour pouvoir arriver à tenir sur les 6 mois.
Quel a été l'impact de cette mesure sur vos chiffres d'affaires?
Ça a eu un impact considérable. Notre chiffre d'affaires à 80-90% est à l'export. Donc naturellement, s'il y a une mesure de fermeture des frontières, donc ça nous impacte vraiment. Au maximum, on était autour de 15 à 20 tonnes d'articles, autour de 1 tonne, 2 tonnes par semaine, 1 tonne, 2 tonnes, 3 plus en tout cas.
Aujourd'hui, cette mesure a été levée un mois et demi après. Comment vous avez accueilli cette annonce-là?
Bon, avec joie, ça a été vraiment salutaire qu'on puisse lever cette mesure assez rapidement. Comme le gouvernement n'a pas assez communiqué sur le sujet, donc on a pensé que c'était lié à la CAN. Et puis juste après, quand il y a eu cette levée des mesures, on ne pouvait que s'en réjouir. Donc on a repris contact avec tout le monde et on espère que les choses iront de mieux en mieux, comme par le passé.
Bachek, gestionnaire d'une entreprise de production et d'exportation des dérivés du manioc, notamment l'attiéké vers l'Europe avec Jean-Claude Mabéa. Rendons-nous à Bouna, où des jeunes facilitateurs communautaires en charge de l'installation et du suivi des AVEC, associations de valorisation, d'entraide et de crédit, ont eu récemment leurs compétences renforcées par l'ONG Aklalé. Il s'agit de la structure qui pilote le projet PGEDEC dans le Bounkani. Les échos de cette activité avec vous, Jérôme Kouassi.
Pour la mission assignée à ses animateurs, facilitateurs communautaires formés, avec Kakou Nguessan Ange, Flavie Elodie de l'ONG Aklalé, facilitatrice.
Nous avons une formation avec les différents facilitateurs qui a consisté à leur former sur la méthodologie AVEC. Comment s'y prendre quand ils seront dans les villages pour former à leur tour aussi les différents groupements qui seront mis en place après sélection des différents enrôlés. Il s'agira aussi pour eux de former la population sur comment ils doivent se comporter dans le groupement, comment mettre en place leurs différents règlements intérieurs. Et aussi, au cas où ces règlements ne sont pas respectés, il y a une amende qui sera versée.
Les AVEC sont une composante opérationnelle du projet PGDEC, emploi jeune pour le développement des compétences associées à d'autres dispositifs comme les TIMO, AJR, MPE, micro et petites entreprises portées par le Conseil régional du Bunkani. Pour une raison d'équité, le PGDEC fait une part belle aux femmes, aux jeunes filles et aux personnes vivant avec un handicap. Kwame Paul Marie, coordinateur régional du PGDEC.
Une frange de la population est plus ou moins marginalisée, à savoir les personnes vivant avec un handicap. Les femmes dans notre région, elles produisent beaucoup, mais elles sont, on va dire, mal rémunérées. Et donc, le partenaire a estimé, au regard des chiffres alarmants dans la région du Bunkani, sur la dynamique du genre, les candidatures des femmes sont encouragées.
Le projet PGDEC, qui est dans la phase 3 d'exécution, dont bénéficie cette année la région de Bunkani, pour les associations villageoises d'épargne et de crédit, est financé par la Banque mondiale dans le Nord. Jérôme Kwasi Krou, Bouna, Radio de la Paix.
Hors de nos frontières, le chef de la junte en Guinée a nommé mardi un premier ministre, et ce au deuxième jour d'une grève générale illimitée, 8 jours après avoir dissous contre toute attente le précédent gouvernement. Le nouveau chef de gouvernement, Amadou Ouriba, aura comme première mission de dénouer la crise avec les syndicats à l'origine d'un large mouvement de contestation qui paralyse le pays depuis 2 jours, apprend l'AFP. Sans transition, passons à la revue des titres de la presse avec vous, Ghislain Koulibaly. Bonjour.
Bonjour Sonia, bonjour à toutes et à tous. L'opération de déguerpissement lancée par le district autonome d'Abidjan est toujours au cœur des préoccupations et c'est ce qui alimente encore la presse ce matin. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire monte au créneau et marque sa solidarité face à la démolition de l'établissement Chahelen de Jesco. Eh bien, hier, les élèves du primaire du collège ont été délogés à Abidjan. Et c'est le Jour Plus qui nous raconte cet épisode en titrant « La fessie paralyse l'école à Abidjan ». L'expression, dans un ton inquiétant, mentionne « Fessie, les vieux démons refont surface, Siekambou et ses lieutenants paralysent l'école ». Même son de cloche du côté de la voix originale, le confrère ajoute « les cours suspendus jusqu'à nouvel ordre ». L'intelligent d'Abidjan, s'intéressant au même sujet, fait plutôt cette annonce. La FECI appelle à la reprise des cours aujourd'hui grâce aux solutions promises. Et puis Sonia, en ce qui concerne les élèves déguerpis, le Patriote met en lumière cette déclaration rassurante de Yeo Clotioloma, premier vice-gouverneur du district d'Abidjan, et je cite « aucun élève ne perdra son année ». Quelle solution face à cette vaste opération de déguerpissement? C'est la question que se posent les citoyens. Sûrement que les explications, les rencontres d'échanges pourraient aider dans ce sens. En tout cas, des rencontres figurent dans l'agenda de Cissé Bakongo, gouverneur du district d'Abidjan, comme nous l'annonce l'Inter. Hier, lui et le père Norbert Abécan se sont parlé, notant que le prêtre originaire d'Anono s'était indigné face aux opérations de déguerpissement prévues toucher son village. Bakongo va aussi rencontrer les maires d'Abidjan. Le journal révèle que ce sera une rencontre de vérité qui aura lieu aujourd'hui. Face à la confusion et au désarroi des populations, le district fait des précisions à lire dans Fratmat et les sorts ivoiriens. Sonia, nous allons boucler cette revue des titres en prenant la direction de Zéo, un village de Bangolo dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a quelques semaines, un instituteur avait été ligoté et battu à mort parce qu'il n'arrivait pas à rembourser un prêt qu'il avait contracté au COGES. Soir Info nous fait savoir que la mère du défunt livre des confidences, pointant en gras, des gens ont failli étouffer la mort de mon fils.
Merci Ghislain, on vous retrouve dans l'édition de 8h et ce sera toujours pour la revue des titres de la presse. L'invité de la rédaction de ce jour est Dr Landry Amoussou, professeur de droit à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Il exhorte le district autonome d'Abidjan à prendre en compte le volet humanitaire dans l'opération de déguerpissement actuellement menée dans le dit district. Sur le sujet, Dr Landry Amoussou répond aux questions de Francis Cassie.
Docteur Landry Yamoussou, bonjour.
Bonjour.
Il y a un déguerpissement dans le district d'Abidjan et selon un communiqué attribué au district, depuis le 25 janvier, il y a eu une mise en demeure adressée aux personnes qui doivent partir de ces lieux. La mise en demeure dit de partir sans délai dès réception de la présente mise en demeure. D'abord, une explication à cela.
Alors, la mise en demeure est une procédure qui est entre les mains des autorités administratives qui permet à intimer l'ordre de se référer aux inscriptions qui sont contenues dans le document. Donc, bien entendu, en tant qu'administratif unilatéral, les destinataires sont susceptibles de contester ces mises en demeure, ce qui est normal dans un état de droit.
Mais la dite mise en demeure demande aux personnes concernées de partir sans délai, alors que en général, la mise en demeure laisse un délai.
Elle peut être interprétée comme une relance, mais quoi qu'il en soit, c'est des sites qui posaient problème depuis très longtemps. Donc, je pense qu'ils avaient déjà été avertis, et là, c'est une autre relance, mais cette fois-ci qui ne donne plus de délai, parce que les autres délais ont été suffisamment épuisés depuis quelques années.
Alors donc, dans ce cas, est-ce que ces personnes concernées disposent de recours contre cette mise en demeure?
Oui, c'est un acte administratif unilatéral, il est susceptible de recours, mais il faudra montrer au juge que l'acte est entaché d'illégalité. Et deuxième élément, il faut montrer l'urgence de ce que le juge se prononce rapidement, parce que les conséquences risquent d'être désastreuses. Donc, cette mesure d'urgence, le référé suspension, existe dans notre droit. Le souci, c'est que ils ont en face une administration qui semble avoir pris toutes les mesures, toute la légalité nécessaire pour entamer cette démarche. Mais il revient aux administrés, en tout cas aux destinataires, de prouver au juge que l'administration s'apprête à commettre une illégalité flagrante.
Alors, quand vous parlez d'illégalité, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire, ils sont sur leur propriété, ils ne sont pas sur le domaine de l'État. Ils ont tous les documents afférents à leur propriété. Ils n'ont pas été dédommagés et on leur demande, voilà, tous ces éléments peuvent permettre au juge de, effectivement, suspendre les démolitions. Mais des petites informations qu'on a, bon, vraiment, ça prend quelques pincettes, nous ne sommes pas sûrs qu'ils sont sur un domaine qui leur appartient.
Alors donc, le recours dont disposeraient ces personnes, c'est un recours devant le juge seulement?
Devant le juge administratif, qu'on appelle une procédure de référé suspension, où on va demander au juge d'intimer à l'administration de ne pas poursuivre les démolitions le temps qu'on ait un examen beaucoup plus poussé sur la légalité de leur démarche. Mais en même temps, il faut montrer au juge, dans les documents, que nous sommes dans notre droit. C'est-à-dire, nous sommes sur notre terrain, un terrain qui n'est pas dans le périmètre du domaine public. Nous avons tous les documents afférents à notre propriété et nous n'avons pas été effectivement dédommagés.
Alors, vous parlez de recours devant le juge administratif. Pourquoi pas devant un autre juge et c'est le juge administratif dans ce cas?
Oui, parce que la personne qui s'apprête à démolir est une personne publique et il s'agit d'une intervention sur le domaine public. Donc là, le cadre, il est clair, ça va se faire inexorablement devant le Conseil d'État.
Donc c'est lui qui est le juge administratif?
C'est le juge administratif. En tout cas, pour ces questions domaniales et pour ces questions de destruction, c'est le juge approprié.
Sinon, en dehors de ces recours devant le juge administratif, ces personnes-là peuvent faire quoi encore?
Vraiment, je ne suis pas persuadé qu'ils soient effectivement sur leur domaine. Parce que généralement, c'est le drame qu'on voit chez nous. On achetait des maisons alors que les lotissements n'étaient pas approuvés. Voilà. Donc après, lorsque l'État fait sortir les plans, on se rend compte qu'on a construit sur un domaine public. Et après, bon, c'est difficile de défendre généralement ce genre de dossier. Parce que on va faire appel à d'autres sentiments, il y a des familles, mais on n'est pas dans du droit. Donc effectivement, ce qu'on peut demander, c'est que peut-être les autorités fassent un peu plus d'humanisme dans ces destructions, c'est tout. Sinon, du peu qu'on voit, hormis quelques illégalités flagrantes, par exemple l'école, je pense que l'État est dans son bon droit actuellement, malheureusement. Mais on lui demande de faire un peu plus d'humanisme, c'est vrai, il est dans son bon droit, je suis d'accord, mais s'il peut raccourcir les délais pour permettre aux uns aux autres, bon, c'est, ça c'est une doléance, ça, on n'est plus dans du droit, on est dans vraiment l'humanisme, on appelle à l'humanité, à l'humanisme. C'est vrai, dans la plupart des dossiers qu'on a, en tout cas sous nos maisons, raison.
Un commentaire sur cette déclaration de ce philosophe qui disait que l'État est un monstre froid. Vous, en tant que docteur en droit, un commentaire?
Les philosophes, à l'époque, se sont indignés. Ils disaient l'État est un monstre froid parce qu'il regarde les gens froidement. Et il ment lorsqu'il dit l'État, c'est nous, le peuple, c'est nous. Alors, je pense qu'on est très loin de cette situation. Moi, je vais peut-être faire appel à un autre philosophe qui disait que le droit a une dimension sociale. Il ne faut pas oublier ça aussi. C'est vrai que personne n'a envie de vivre dans ces lieux-là. Ils ne sont pas dans leurs droits lorsqu'on regarde, mais en tant qu'être humain, ça fait un peu mal de voir des familles, des enfants dehors comme ça. Donc on sait, l'État est dans son droit, il peut activer les mises en demeure, il peut envoyer les bulldozers, on sait. Ça, il n'y a pas de souci, on peut toujours défendre ça juridiquement, mais socialement, avec un peu d'humanisme, s'ils peuvent un peu rallonger les délais, pour permettre à ces populations-là de trouver un autre site. On a fait une très belle canne, on est en train de savourer la victoire, on n'a pas envie de voir nos frères sous les ponts. Franchement, ça fait mal au cœur.
Est-ce à dire que ces déguerpissements sont faits sans un peu d'humanisme?
Avec les témoignages qu'on a vus, des gens qui pleuraient. Bon, nous, en tant que citoyens, on a toujours mal au cœur lorsqu'on voit nos frères comme ça dormir sous les ponts avec les enfants en pleurs. Vraiment, on a été choqués, même si effectivement, on sait qu'ils sont dans le bon droit.
Docteur Landry Amoussou, je vous remercie.
Merci beaucoup, à vous, à bientôt.
Aujourd'hui, invité de la rédaction, Dr Landry Amoussou, professeur de droit à l'université Alassane Ouattara de Boaké, était avec Francis Cassi. C'est ce qui marque le point final de ce journal, dont voici le rappel des titres. Opération de déguerpissement dans le district autonome d'Abidjan. Le secrétaire général de la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, a rencontré lundi le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan. Siekambou a abordé avec Cissé Bakongo la situation des élèves du groupe scolaire Chahélène de Yopougon-Jesco. Et puis en Guinée, le chef de la junte, Mamadi Doumbouya, a nommé hier mardi un premier ministre. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous, 8h.
Radio de la paix, l'info juste et sans passion.